Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Good Morning Business, le grand entretien.
Et à 8h16 aujourd'hui, notre grand entretien, c'est Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque Centrale Européenne. Bonjour, merci d'être avec nous. On a eu hier une Fed dans le brouillard. Jérôme Powell ne s'est pas engagé pour la suite. Il a même dit « je ne sais pas ». On l'écoute.
Cette nouvelle hausse de taux peut avoir un effet modeste sur l'économie. Il est également possible que cela contribue à considérablement réduire les conditions de crédit au fil du temps. Nous ne savons tout simplement pas.
Comment vous interprétez cette vision, dire je ne sais pas en fait, c'est honnête ou c'est inquiétant?
Non.
Les deux peut-être?
Non, c'est honnête évidemment, et il s'agit de voir exactement quelles sont les répercussions de ce qui est arrivé évidemment aux banques américaines, c'est pas tout à fait terminé d'ailleurs, et à la banque européenne particulière qu'est le Crédit Suisse, et d'une manière générale de prendre la mesure de l'impact de tout cela sur l'économie. C'est exactement la même approche aux États-Unis et en Europe. En Europe aussi, on a augmenté les taux comme cela avait été dit et promis, mais on a changé ce qu'on appelle les indications ex ante, le forward guidance dans le jargon, parce que précisément, il y a besoin d'informations supplémentaires pour savoir ce qui sera fait. Donc, des deux côtés de l'Atlantique, on a changé les indications a priori, et c'est ça qui signale qu'il y a un problème particulier de fragilité, disons, de la sphère financière.
Ça veut dire que, Jean-Claude Trichet, vous admettez qu'il y a un problème de fragilité du système financier, pas seulement du système bancaire américain, et qu'on a un doute sur les prochains épisodes?
D'abord, normalement, si vous voulez, on ne dit pas à l'avance, avec ce niveau de précision, ce qu'on va faire. C'était parce que l'inflation était réellement extraordinairement menaçante qu'on en venait à une situation dans laquelle la Banque Centrale Européenne disait 50 points de base
3 fois de suite.
La fois suivante, et puis 50 points de base encore après. Je parle des indications qui étaient données ex ante.
Ouais.
Maintenant, effectivement, compte tenu de l'incertitude générale, des deux côtés de l'Atlantique, on prend les mesures appropriées pour combattre l'inflation, parce que l'inflation est toujours là et très menaçante, et c'est le problème, disons, économique, monétaire et politique majeur pour l'ensemble de nos concitoyens. Et puis, par ailleurs, on prend en compte, effectivement, une situation qui est, de ce point de vue-là, du fait de ce qui est arrivé aux États-Unis. Une nouvelle fois, d'ailleurs, les problèmes naissent d'abord aux États-Unis, vous le notez en passant.
Et vous inquiète, Jean-Claude Trichet, la situation du système bancaire et financier américain?
Ce que j'ai toujours dit personnellement, c'est que nous étions dans une situation fragile sur le plan financier, plus fragile d'ailleurs dans l'analyse de la plupart des observateurs chez les non-banques que dans les banques. Le fameux shadow banking était plus menaçant. Il reste...
Parce qu'il est moins réglementé.
Il reste menaçant, il est moins réglementé. Il y a des domaines, disons, des segments du marché dans lesquels les surendettements est monumental, le leverage est monumental. Donc il faut rester extrêmement vigilant, n'avoir aucune espèce de complaisance. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que le premier problème, disons, émerge dans les banques américaines. Mais ce n'est pas tellement étonnant parce qu'ils n'ont pas respecté les recommandations prudentielles de Bâle. Et donc, quand on regarde, si vous voulez, les raisons pour lesquelles on a les banques régionales en situation très très mauvaise, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté le ratio structurel de liquidité à long terme.
Mais où est-ce
c'est respecté par les grandes banques, pas par les banques moyennes, parce qu'ils ont considérablement allégé, disons, leur propre régulation sous l'administration Trump. Ouais. C'est relativement récent.
C'était un choix politique. Où est-ce qu'il faut regarder aujourd'hui pour voir venir un stress? On a été hier ou avant-hier avec Philippe Brassac qui nous disait il n'y a pas de problème, il n'y a plus de mécanisme de titrisation, donc il n'y a pas de contagion possible. Mais on voit aujourd'hui qu'un risque peut venir de n'importe où, en fait, de là où on ne le voit pas venir. L'analyse de la crise de 2008 sur aujourd'hui ne nous apporte rien, en fait.
Si, quand même, si vous voulez. Toutes les banques, sans exception, étaient extraordinairement fragiles au moment de Lehman Brothers. Toutes sans exception, les banques commerciales, les banques d'investissement, et cela, malheureusement, des deux côtés de l'Atlantique. On a formidablement renforcé les règles de prudence. Donc, il n'était pas faux de dire, normalement, les banques sont solides. D'ailleurs, c'est ce qui a été répété par les Américains, qui ont dit, nos banques sont très solides. Alors, ils font ce qu'il faut sur les banques régionales, mais les grandes banques sont solides. Je crois que c'est parfaitement exact. En Europe, dans la zone euro, le Crédit Suisse n'est pas dans la zone euro, comme chacun sait, dans la zone euro, je crois également que la solidité du système bancaire ne fait pas de doute. Et d'ailleurs, on applique, nous, les règles de prudence. En revanche, effectivement, je crois qu'il faut rester très attentif pour des non-banques qui sont dans les domaines les plus endettés. Et là, il y a effectivement des choses qui peuvent arriver. Donc, je crois qu'il faut rester lucide, très prudent et pas du tout complaisant. Si jamais les banques centrales disaient la situation est tellement menaçante ou tellement fragile qu'on ne peut plus lutter contre l'inflation, ce serait le plus mauvais signal qui serait donné à l'ensemble du marché. D'ailleurs, vous avez vu, au total, le fait que la Banque centrale américaine ait haussé les taux de 25 points de base, pas de 50, pas de 0, a été considéré au total par la plupart des observateurs comme la marque d'une institution responsable qui fait ce qu'il faut pour arriver à juguler l'inflation, mais qui tient compte du fait et qui change, encore une fois, ses indications ex ante, son forward guidance.
Est-ce qu'on va justement parvenir à juguler l'inflation? Parce que, est-ce que c'est pas un peu la monnaie qui se venge? Ces centaines, ces milliers de milliards de liquidités injectées dans l'économie depuis des années, non seulement avant le Covid, mais évidemment encore plus pendant la Covid. Est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas obligé de constater qu'il y a un peu de monnaie de singe et que donc l'inflation, elle prend acte de tout ça?
Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Évidemment, le fait d'avoir accumulé des politiques très, très accommodantes, aussi bien en matière budgétaire qu'en matière monétaire dans tous les pays avancés, complique les choses aujourd'hui. Mais il fallait le faire, parce qu'il fallait éviter la matérialisation du risque de déflation. Donc, je pense que critiquer le passé en disant « fallait pas faire ça » est irresponsable.
Je critique pas, je dis juste qu'après, une conséquence, c'est que la monnaie, ça vaut moins, une monnaie d'aujourd'hui vaut moins qu'une monnaie qu'hier.
Non, je ne crois pas non plus. Je crois que, au contraire, si vous voulez, les banques centrales, qui sont celles qui émettent la monnaie, réaffirmant de manière très solennelle que pour elle, la bonne stabilité des prix, c'est autour de 2%, ce qui est le cas, je le répète si vous voulez, parce que c'est très important, aux États-Unis, en Angleterre, au Japon, et chez nous qui avons donné le premier signal d'ailleurs. Hein, on a la même définition de la stabilité des prix dans toutes les grandes banques centrales des pays avancés. Les quatre grandes banques centrales qui émettent les monnaies des pays avancés qui sont dans le panier des droits de tirage spéciaux.
C'est pas un chiffre en l'air, c'est un chiffre gravé dans le marbre.
C'est pas un chiffre en l'air. Quand on regarde ce qu'a fait la Banque Centrale Européenne depuis sa création, elle a respecté, si vous voulez, on est autour de 2% en moyenne chaque année. Les Américains ont décidé que c'était la bonne stabilité des prix, les Japonais aussi, en 2012 et 2013. C'est très important de le réaffirmer. Jay Powell l'a réaffirmé 4 fois dans son speech, dans sa conférence de presse. Donc je crois que effectivement, les observateurs, les économistes, les participants du marché, d'ailleurs, à terme, montrent qu'ils ont confiance quand on regarde les anticipations.
Mais du coup, pour vous, on va continuer d'augmenter les taux. Jean-Paul a été très clair, on ne baissera pas les taux d'ici la fin de l'année, ça s'est exclu. Il n'y a plus de calendrier, mais pour vous, si on garde toujours cet objectif d'inflation, on doit continuer peut-être une hausse des taux modérée.
Je reprends, si vous voulez, ce qu'il a dit lui-même. Hein. Il a dit lui-même, on peut, il utilise le conditionnel. On peut avoir à prendre des décisions supplémentaires. D'ailleurs, c'est visible, puisque lorsque on demande aux membres de l'Open Market Committee ce qu'ils pensent, ils disent en moyenne, il y en a qui sont beaucoup plus agressifs, disons, et d'autres beaucoup plus modérés, mais au total, on est à 5,1%. Or, ils sont maintenant à un niveau qui est encore inférieur à 5,1%, hein, 4,15 à 5. Donc, effectivement, il signale qu'il peut y avoir des hausses de taux d'intérêt à venir. Il ne s'engage pas, et certainement pas pour la prochaine réunion.
Donc vous nous dites, Jean-Claude Trichet, ce matin, que la lutte contre l'inflation, c'est quand même l'objectif premier, quoi qu'il en coûte, même si ça risque de fragiliser le système financier et bancaire mondial, même si ça tue la croissance.
Bah écoutez, allez demander aux Français et à l'ensemble des Européens, à tous nos concitoyens, s'ils trouvent que 8,5% d'inflation, c'est parfait. Et s'ils trouvent que 5,6% ou 5,5% d'inflation sous-jacente, c'est parfait. Vous savez bien que c'est un problème absolument majeur. Ce qui compte, c'est que les banques centrales soient assez crédibles. Elles ne disent pas ce qu'elles vont faire. Ouais. Mais elles disent simplement, voilà notre objectif. C'est un peu comme un navire, si vous voulez, qui dit, voilà l'endroit où je vais arriver. Pour le reste, laissez-moi manœuvrer. Il y a des vents, il y a de la tempête, il y a, je sais pas quoi, la mer est démontée ou pas. on va prendre les décisions appropriées. C'est exactement ce qu'elles nous disent, et elles ont, je crois, la crédibilité pour le dire. En tout cas, certainement, la Banque Centrale Européenne, de manière incontestable, parce qu'elle peut prouver que sur un quart de siècle, ce qu'elle a donné, c'est la stabilité des prix en moyenne.
Christine Lagarde a réexpliqué hier qu'il y aurait des conséquences de la crise de Crédit Suisse, notamment sur le financement de l'économie, qu'un resserrement du crédit, c'est ça qui va se passer dans les semaines à venir, et ça presque, ça vaut une hausse de taux.
Alors, c'est ce qu'on dit des deux côtés de l'Atlantique. Christine Lagarde, effectivement, l'a dit. Notre gouverneur, M. Villeroy de Galloz, l'a aussi dit. Et de l'autre côté de l'Atlantique, on dit la même chose. Hein. Le Jay Powell, c'est tout récent, c'est hier, a dit, oui, on peut dire que ce qui est en train de se passer pourra correspondre à un certain resserrement du crédit, et donc peut-être un peu l'équivalent d'une hausse de taux.
Ouais, refroidir l'économie, en fait.
Mais il a dit, je ne sais pas exactement ce qu'il en sera, et encore une fois, il ne prend pas d'engagement de nouvel engagement ex ante. Je crois que la période pendant laquelle, des deux côtés de l'Atlantique, parce que le problème de l'inflation était vraiment tragique, on dit, on va faire ceci le mois prochain, et puis encore ceci le mois d'après, ça s'est révolu, me semble-t-il. On est maintenant dépendant des données, data dependent.
Les banquiers centraux sont un peu comme des magiciens, des alchimistes, parce que tout ça repose sur des conventions et un rapport de confiance, vous le disiez. Oui. C'est pour ça que souvent, quand un banquier central parle, on n'est pas sûr d'avoir toujours compris, parce qu'en fait, il doit rester un peu mystérieux sur la recette.
Non. Le mystère était la norme du temps d'Alan Greenspan,
ouais, c'est ça.
Qui disait, si vous pensez avoir compris ce que j'ai dit, c'est probablement que j'ai fait une erreur quelque part. Donc, le mystère faisait partie de la panoplie. C'est plus du tout le cas. La transparence, y compris la transparence pour dire, bah, écoutez, on ne sait pas encore, naturellement, ce qu'on va faire. De mon temps, d'ailleurs, je ne disais jamais à l'avance, on va faire, je sais pas quoi, 25 points de base, ou 50 ou 10, la prochaine fois. On disait simplement, il est probable qu'on puisse hausser les taux, mais on ne prenait jamais d'engagement chiffré. Et ces engagements chiffrés qui ont été pris récemment correspondaient à vraiment une menace inflationniste considérable. Évidemment, on l'a sous les yeux. Et encore une fois, c'est un problème majeur pour tous nos concitoyens. Donc, il faut que les banques centrales soient crédibles, soient crues, en quelque sorte, par nos concitoyens, par les participants du marché, par l'ensemble des observateurs.
Une question sur un débat qui est apparu en France depuis hier sur le rachat d'actions. Emmanuel Macron a parlé hier des rachats d'actions. Il a parlé du cynisme des entreprises qui le pratiquent. En gros, il explique que ça ne sert à rien, qu'il va falloir redistribuer de la valeur aux salariés quand on le fait. Les rachats d'actions, pour vous, c'est normal dans l'économie ou c'est quelque chose de stérile ?
Écoutez, très franchement, malheureusement, c'est une norme mondiale. Et comme nous sommes en compétition avec l'ensemble des autres économies du monde, si nos entreprises, à nous, voient, quoi qu'elles fassent, leur capitalisation diminuer, elles deviennent des cibles. Et donc, pour le coup, on est racheté par l'étranger. Comme il y a déjà énormément de capitaux étrangers dans toutes nos entreprises, pour des raisons d'ailleurs complexes, y compris liées au problème des retraites, parce qu'il n'y a pas de retraite par capitalisation en France, ou très peu, donc ce serait, à mon avis, des mesures qu'il faudrait prendre au niveau international. Et j'attends beaucoup des États-Unis, parce que c'est quand même eux qui donnent le « là » en matière de rachat d'actions. Je crois que vous l'avez vous-même souligné. C'est une norme qui est devenue une sorte de norme. C'est vrai que c'est aberrant. Les profits colossaux qui s'accumulent parfois ici ou là devraient être réinvestis. Je ne dis pas nécessairement distribués, mais réinvestis pour que l'économie soit encore plus dynamique, bien entendu. Donc, au total, problème mondial, malheureux problème mondial, parce que je crois effectivement que ce n'est pas du tout optimal, personnellement.
Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque Centrale Européenne, était notre invité. Merci beaucoup. Dans un instant, le top 3 et le grand débat.
Merci.